Radio Vatican présente Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. La guerre et la peine de mort.
Certaines situations extrêmes peuvent finir par se présenter comme des solutions dans des circonstances particulièrement dramatiques sans qu'on se rende compte que ce sont de fausses réponses qui ne résolvent pas les problèmes posés et qu'en définitive, elles ne font qu'ajouter de nouveaux facteurs de destruction dans le tissu de la société nationale et planétaire. Il s'agit de la guerre et de la peine de mort.
L'injustice de la guerre.
Au cœur qui médite le mal, la fraude. Au conseiller pacifique, la joie. Toutefois, certains cherchent des solutions dans la guerre qui se nourrit souvent de la perversion des relations, d'ambitions hégémoniques, d'abus de pouvoir, de la peur de l'autre et de la différence perçue comme un obstacle. La guerre n'est pas un fantasme du passé, mais au contraire, elle est devenue une menace constante. Le monde rencontre toujours plus d'obstacles dans le lent cheminement vers la paix qu'il avait initié et qui commençait à porter quelques fruits.
Puisque de nouveau, les conditions se réunissent pour la prolifération des guerres, je rappelle que la guerre est la négation de tous les droits et une agression dramatique contre l'environnement. Si l'on veut un vrai développement humain intégral pour tous, on doit poursuivre inlassablement l'effort pour éviter la guerre entre les nations et les peuples. À cette fin, il faut assurer l'incontestable état de droit et le recours inlassable à la négociation, aux bons offices et à l'arbitrage, comme proposé par la Charte des Nations Unies, vraie norme juridique fondamentale. Je voudrais souligner que les 75 ans des Nations Unies et l'expérience des 20 premières années de ces millénaires montrent que la pleine application des normes internationales est réellement efficace et que leur violation est nuisible. La Charte des Nations Unies, respectée et appliquée dans la transparence et en toute sincérité, est un point de référence obligatoire de justice et une voie de paix. Mais cela suppose que des intentions spécieuses ne soient pas masquées et que des intérêts particuliers d'un pays ou d'un groupe ne soient pas placés au-dessus du bien commun du monde entier. Si la loi est considérée comme un instrument auquel on recourt lorsque cela s'avère favorable et qu'on la contourne dans le cas contraire, des forces incontrôlables se déclenchent qui nuisent gravement aux sociétés, aux plus faibles, à la fraternité, à l'environnement, aux biens culturels, entraînant des pertes irrécupérables sur le plan mondial.
C'est ainsi qu'on fait facilement le choix de la guerre sous couvert de toutes sortes de raisons supposées humanitaires, défensives ou préventives, même en recourant à la manipulation de l'information. De fait, ces dernières décennies, toutes les guerres ont été prétendument justifiées. Le catéchisme de l'Église catholique parle de la possibilité d'une légitime défense par la force militaire, qui suppose qu'on démontre que sont remplies certaines conditions rigoureuses de légitimité morale. Mais on tombe facilement dans une interprétation trop large de ce droit éventuel. On veut ainsi justifier indûment même des attaques préventives ou des actions guerrières qui, difficilement, n'entraînent pas des maux ou des désordres plus graves que le mal à éliminer. Le problème, c'est que depuis le développement des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, sans oublier les possibilités énormes et croissantes qu'offrent les nouvelles technologies, la guerre a acquis un pouvoir destructif incontrôlé qui affecte beaucoup de victimes civiles innocentes. Incontestablement, jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir sur elle-même et rien ne garantit qu'elle s'en servira toujours bien. Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste, jamais plus la guerre.
Il est important d'ajouter qu'avec le développement de la mondialisation, ce qui peut apparaître comme une solution immédiate ou pratique à un endroit dans le monde crée un enchaînement de facteurs violents, très souvent imperceptibles, qui finit par affecter toute la planète et ouvrir la voie à de nouvelles et pires guerres à l'avenir. Dans notre monde, il n'y a plus seulement des morceaux de guerre dans tel ou tel pays, mais on affronte une guerre mondiale par morceaux, car les destins des pays sont fortement liés entre eux sur la scène mondiale.
Comme le disait Saint Jean XXIII, il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. Il l'affirmait à un moment de forte tension internationale, et il a ainsi exprimé le grand désir de paix qui se répandait à l'époque de la guerre froide. Il a renforcé la conviction que les raisons pour la paix sont plus fortes que tout calcul lié à des intérêts particuliers et toute confiance dans l'usage des armes. Mais par manque d'une vision d'avenir et par manque d'une conscience partagée concernant notre destin commun, on n'a pas profité, comme il le fallait, des occasions qu'offrait la fin de la guerre froide. Au contraire, on a cédé à la quête d'intérêts particuliers sans se soucier du bien commun universel. La voie a été ainsi rouverte à la trompeuse terreur de la guerre.
Toute guerre laisse le monde pire que dans l'état où elle l'a trouvé. La guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse, une déroute devant les forces du mal. N'en restons pas aux discussions théoriques. Touchons les blessures, palpons la chair des personnes affectées. Retournons contempler les nombreux civils massacrés, considérés comme des dommages collatéraux. Interrogeons les victimes. Prêtons attention aux réfugiés, à ceux qui souffrent des radiations atomiques ou des attaques chimiques, aux femmes qui ont perdu leurs enfants, à ces enfants mutilés ou privés de leur jeunesse. Prêtons attention à la vérité de ces victimes de la violence. Regardons la réalité avec leurs yeux et écoutons leurs récits, le cœur ouvert. Nous pourrons ainsi reconnaître l'abîme de mal qui se trouve au cœur de la guerre et nous ne serons pas perturbés d'être traités de naïfs pour avoir fait le choix de la paix.
Les lois ne suffiront pas non plus si l'on pense que la solution aux problèmes actuels consiste à dissuader les autres par la peur, en menaçant de l'usage d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Car si nous prenons en considération les principales menaces à la paix et à la sécurité dans leurs multiples dimensions dans ce monde multipolaire du XXIe siècle, comme par exemple le terrorisme, les conflits asymétriques, la cybersécurité, les problèmes environnementaux, la pauvreté, de nombreux doutes surgissent en ce qui concerne l'insuffisance de la dissuasion nucléaire comme réponse efficace à ces défis. Ces préoccupations assument une importance encore plus grande si nous considérons les conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques qui découlent de toute utilisation des armes nucléaires ayant des effets dévastateurs indiscriminés et incontrôlables dans le temps et dans l'espace. Nous devons également nous demander dans quelle mesure un équilibre fondé sur la peur est durable, quand il tend de fait à accroître la peur et à porter atteinte aux relations de confiance entre les peuples. La paix et la stabilité internationale ne peuvent être fondées sur un faux sentiment de sécurité, sur la menace d'une destruction réciproque ou d'un anéantissement total, ou sur le seul maintien d'un équilibre des pouvoirs. Dans ce contexte, l'objectif ultime de l'élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et humanitaire. L'interdépendance croissante et la mondialisation signifient que, quelle que soit la réponse que nous apportons à la menace des armes nucléaires, celle-ci doit être collective et concertée, basée sur la confiance mutuelle. Cette confiance ne peut être construite qu'à travers un dialogue véritablement tourné vers le bien commun et non vers la protection d'intérêts voilés ou particuliers. Et avec les ressources financières consacrées aux armes, ainsi qu'à d'autres dépenses militaires, créons un fonds mondial en vue d'éradiquer une bonne fois pour toutes la faim et pour le développement des pays les plus pauvres, de sorte que leurs habitants ne recourent pas à des solutions violentes ou trompeuses, ni n'aient besoin de quitter leur pays en quête d'une vie plus digne.
La peine de mort.
Il est une autre façon d'éliminer l'autre, qui ne concerne pas les pays, mais les personnes. C'est la peine de mort. Saint Jean-Paul II a affirmé de manière claire et ferme qu'elle est inadéquate sur le plan moral et n'est pas nécessaire sur le plan pénal. Il n'est pas possible de penser revenir sur cette position. Aujourd'hui, nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible et l'Église s'engage résolument à proposer qu'elle soit abolie dans le monde entier.
Dans le Nouveau Testament, alors que l'on demande aux individus de ne pas se rendre justice eux-mêmes, on reconnaît la nécessité que les autorités imposent des peines à ceux qui font le mal. En effet, la vie en commun, structurée autour de communautés organisées, a besoin de règles de coexistence dont la violation libre exige une réponse adaptée. Cela implique que l'autorité publique légitime peut et doit infliger des peines proportionnées à la gravité des délits et que l'indépendance nécessaire dans le domaine de la loi doit être garantie au pouvoir judiciaire.
Dès les premiers siècles de l'Église, certains se sont clairement déclarés contraires à la peine capitale. Par exemple, Lactance soutenait qu'il ne fallait faire aucune distinction, tuer un homme sera toujours un crime. Le pape Nicolas Ier exhortait « Tâchez de délivrer de la peine de mort non seulement les innocents mais aussi tous les coupables. » À l'occasion d'un procès contre des meurtriers qui avaient assassiné deux prêtres, saint Augustin a demandé aux juges de ne pas leur ôter la vie. Et il se justifiait ainsi. Ce n'est pas que nous nous opposions à ce qui doit ôter aux méchants la liberté du crime, mais nous voulons qu'on leur laisse la vie et qu'on ne fasse subir à leur corps aucune mutilation. Il nous paraît très suffisant qu'une peine légale mit fin à leur agitation insensée et les aida à retrouver le bon sens ou qu'on les détournât du mal en les employant à quelque travail utile. Ce serait là aussi une condamnation, mais qu'on comprend qu'un état où l'audace criminelle ne peut plus se donner carrière et où on laisse le temps au repentir doit être appelé un bienfait plutôt qu'un supplice. Réprimer le mal sans oublier ce qui est dû à l'humanité, que les atrocités des pécheurs ne soient pas pour vous une occasion de goûter le plaisir de la vengeance, mais qu'elles soient comme des blessures que vous preniez soin de guérir.
Les peurs et les rancunes conduisent facilement à une conception vindicative, voire cruelle des peines, alors qu'elles doivent être comprises comme faisant partie d'un processus de guérison et de réinsertion dans la société. Aujourd'hui, aussi bien dans certains secteurs de la politique que dans certains moyens de communication, on incite parfois à la violence et à la vengeance publique et privée, non seulement contre ceux qui sont responsables d'avoir commis des délits, mais aussi contre ceux sur lesquels retombe le soupçon, fondé ou non, d'avoir violé la loi. Il y a parfois la tendance à construire délibérément des ennemis, des figures stéréotypées qui concentrent en elles-mêmes toutes les caractéristiques que la société perçoit ou interprète comme menaçantes. Les mécanismes de formation de ces images sont les mêmes qui, en leur temps, permirent l'expansion des idées racistes. Cela a rendu particulièrement dangereuse l'habitude croissante, dans certains pays, de recourir à la prison préventive, à des incarcérations sans jugement et surtout à la peine de mort.
Je voudrais faire remarquer qu'il est impossible d'imaginer qu'aujourd'hui, les États ne puissent pas disposer d'un autre moyen que la peine capitale pour défendre la vie d'autres personnes contre un agresseur injuste. Les exécutions dites extrajudiciaires ou extralégales sont particulièrement graves. Elles sont des meurtres délibérés commis par certains États et par leurs agents, souvent maquillés en affrontement avec des délinquants ou présentés comme des conséquences involontaires du recours raisonnable, nécessaire et proportionnel à la force pour faire appliquer la loi.
Les arguments contraires à la peine de mort sont nombreux et bien connus. l'Église en a opportunément souligné quelques-uns, comme la possibilité de l'existence de l'erreur judiciaire et l'usage qu'en font les régimes totalitaires et dictatoriaux, qu'ils l'utilisent comme instrument de suppression de la dissidence politique ou de persécution des minorités religieuses et culturelles, autant de victimes qui, selon leurs législations respectives, sont des délinquants. Tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté sont donc appelés à lutter non seulement pour l'abolition de la peine de mort, légale ou illégale, et sous toutes ses formes, mais aussi afin d'améliorer les conditions carcérales dans le respect de la dignité humaine des personnes privées de la liberté. Et cela, je le relie à la prison à perpétuité. La prison à perpétuité est une peine de mort cachée.
Rappelons-nous que le meurtrier garde sa dignité personnelle et Dieu lui-même s'en fait le garant. Le rejet ferme de la peine de mort montre à quel point il est possible de reconnaître l'inaliénable dignité de tout être humain et d'accepter sa place dans cet univers. Étant donné que, si je ne la nie pas au pire des criminels, je ne la nierai à personne. Je donnerai à chacun la possibilité de partager avec moi cette planète malgré ce qui peut nous séparer.
J'invite les chrétiens qui doutent et qui sont tentés de céder face à la violence, quelle qu'en soit la forme, à se souvenir de cette annonce du livre d'Isaïe. Ils briseront leurs épées pour en faire des socs. Pour nous, cette prophétie prend chair en Jésus-Christ qui, face à un disciple gagné par la violence, disait avec fermeté « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. » C'était un écho de cette ancienne mise en garde. Je demanderai compte du sang de chacun de vous. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Cette réaction de Jésus, jaillissant de son cœur, traverse les siècles et parvient jusqu'au temps actuel comme un avertissement permanent.
Radio Vatican vous a présenté Fratelli Tutti, la lettre encyclique du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Adaptation radiophonique de Mara Micelli. Avec les voix de Manuela Affigi, Muando Babualo, Olivier Bonnel, Marie Duhamel, Xavier Sartre, Cyprien Viet
et Jean-Charles Puzolu.
Assistance technique de Roberto Colangeli et Mario Scaton. Une production Radio Vatican en collaboration avec la Libreria Editrice Vaticana.